Il me faut rapidement vous présenter. Si les années avaient 400, voire un peu plus de 400 jours, et non pas 365, j'aurais demandé à des responsables, policiers, gendarmes, de venir dire ce qu'ils pensent de la justice en 2024. J'aurais demandé également à un préfet, car ils sont devenus des interlocuteurs privilégiés des procureurs de la République. Le temps nous manque, bien qu'il y ait beaucoup à dire. Mais il est une profession, un partenaire essentiel, qui devait impérativement venir tous vous rencontrer, prendre la parole et vous parler de ce qu'il fait et des rapports que nous entretenons, c'est l'avocat, compagnon de route des juges et des procureurs, avocat sans lequel il n'est pas de justice. Comme le dit la Cour européenne des droits de l'homme, il est l'un des acteurs de la justice. Il fut un temps où l'on était avocat avant de devenir magistrat. Sans doute l'ENM a-t-elle, selon des durées et des modalités diverses, multiplier les périodes de stage dans des cabinets d'avocats afin que les jeunes magistrats connaissent, ne serait-ce qu'un peu, ce qu'est la vie d'un avocat, souvent écartelé entre son cabinet et ses clients, le palais, où il lui faut fréquemment attendre et perdre beaucoup de temps, les déplacements, voire les voyages et les séjours à l'hôtel lorsqu'il doit plaider plusieurs jours à l'extérieur. Ce n'est pas une vie facile. Il fut un temps que j'ai connu où l'avocat pénaliste ne faisait que peu de droit et plaidait le fait, avant de disséquer la personnalité du prévenu ou de l'accusé. Nous appréhendions la présence d'avocats spécialistes du droit civil ou commercial à l'audience pénale, car eux, ils plaidaient en droit. J'ai connu ça notamment dans une ville aussi grande que Lyon, votre ville. Tout cela a bien changé, et le code de procédure pénale, devenu un gigantesque fatras, ouvre aux avocats d'immenses champs de nullité potentielle qu'ils ont, s'ils sont compétents, et ils le sont devenus, la sagesse d'utiliser. Ce qui peut parfois retarder le cours de procédure, ce qui irrite parfois, et ce qui est source d'incompréhension, la lenteur de la justice, combien de fois en a-t-on entendu parler ? Notre invité était cela de soi, libre d'aborder, comme il l'entendait, le regard qu'il porte en 2024 sur la justice de notre pays, et il va nous le dire. Cet invité, c'est donc François Saint-Pierre, avocat pénaliste au barreau de Lyon depuis 1984, mais également souvent présent à Paris. À titre d'exemple, pour vous le situer, il a notamment défendu la compagnie Air France dans l'affaire du crash Rio-Paris. Il a assuré la défense de M. Colombani, d'Avet, L'Homme et Johannes, journalistes du Monde, dont il est l'un des conseils. Pour ceux qui s'intéressent aux épisodes complexes de la Côte d'Azur, il fut l'avocat de Maurice Agnolet. Il fut également l'avocat de l'un des magistrats exerçant alors à Monaco qui ont conduit l'actuel garde des Sceaux, en raison des procédures disciplinaires qu'il avait engagées contre le dit magistrat, à faire l'objet de poursuites devant la Cour de justice de la République. Et il est l'un des avocats de l'un des pires drames judiciaires de ces 40 dernières années, l'un des avocats de Jean-Marie et de Christine Villemain, et je m'en tiens là. Je vous demande simplement de retenir, car c'est important. Il a publié chez Odile Jacob, en 2009, « Avocat de la Défense ». En 2021, « Un pays qui voulait rester libre », chronique d'une accoutumance sécuritaire. Il a également publié en 2013 « Au nom du peuple français », jury populaire ou juge professionnel, ce qui vous renvoie à une récente communication. En 2019, « Le droit contre les démons de la politique ». Et, plus important peut-être encore, pour les techniciens en tout cas, aux librairies générales de droit et de jurisprudence, une pratique de la défense pénale qui en est à sa 6e édition. Si je vous dis cela, c'est pour que vous soyez déjà persuadé qu'il sait de quoi il parle. Vous avez la parole, François Saint-Pierre.
Devant vous, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les académiciens, voilà en effet bientôt 40 ans, cette année, que j'exerce ce métier d'avocat pénaliste, de praticien de base, si je puis dire. Et si j'ouvre ainsi mon propos, c'est pour témoigner de la formidable évolution de notre monde judiciaire à laquelle j'ai assisté ces décennies. Mais je crois qu'après quelques mots d'introduction pour bien cerner et cibler le contexte et les enjeux de notre discussion, un regard sur le passé nous permettra de mieux apprécier l'état actuel de la justice pénale en France, ses qualités et ses défauts, ses procédures et ses structures, mais aussi et peut-être surtout les pratiques professionnelles, la culture juridique et la philosophie judiciaire, autant des avocats que des magistrats, leurs relations, leurs interactions, et avec la presse aussi, dont le rôle dans le monde judiciaire est tout à fait essentiel. Je dois vous dire que j'ai toujours, comme avocat, ce mot de Tacite à l'esprit, qui dans les annales assignait aux avocats une mission exigeante mais cruciale, je cite, « empêcher qu'un accusé soit livré à la force, autrement dit, à l'arbitraire ». Et Tacite fut lui-même avocat. Il avait posé là les prémices de ce que l'on appelle aujourd'hui le procès équitable. Et c'est ce concept moderne qui est né de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui aura suscité tant d'évolutions, non seulement de notre organisation judiciaire, de nos procédures, mais aussi de notre système légal. Ce qui est essentiel et ce qui fait débat, c'est qu'en quelques années seulement, notre droit, qui est d'essence purement législative depuis la Révolution et le Premier Empire, n'est-ce pas, s'est métamorphosé en un droit jurisprudentiel, prétorien, et cela dans une très large mesure, comme je vais le démontrer tout à l'heure par des exemples très concrets et vécus. Mais du coup, plus encore que par le passé, je crois que les juges exercent une fonction majeure, qui est non seulement de dire le droit classiquement, mais aussi, et c'est clivant, le créer, l'inventer, comme disaient les Romains, mais à une condition toutefois que les avocates, les avocats, remplissent leur office dans le procès sérieusement en posant des questions de droit, des questions qui soient pertinentes auxquelles les juges doivent alors répondre, puisque, et c'est une règle impérative, les juges ne peuvent pas se les poser d'initiative. Et je crois que c'est l'un des traits les plus intéressants de l'évolution du procès pénal depuis des années récentes, depuis les années 2010. On parle droit dans les salles d'audience, plus encore que par le passé. Les arguments, les avocats argumentent en droit, les magistrats du ministère public aussi, auxquels les juges doivent ensuite répondre par des jugements motivés, dès lors qu'un tel débat juridique s'est ouvert, et cela dès la première instance devant les tribunaux correctionnels, puis en cour d'appel, et enfin devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. C'est là que depuis plus de 200 ans se forge et s'unifie la jurisprudence pénale. Je dois dire que c'est une jurisprudence qui mériterait d'être racontée comme une page de notre histoire nationale, tant elle a évolué au cours de cette époque et produit des conséquences significatives, bénéfiques dans bien des cas, à mon avis, pas toujours, sur l'organisation de la société, sur l'exercice des droits et des libertés, et donc finalement sur le fonctionnement quotidien et à long terme de la démocratie. Donc c'est un discours volontaire, constructif, que je souhaite tenir devant vous, et non pas polémique, ni pessimiste ou lacrymal, comme les avocats en sont coutumiers, il faut le dire, parce que je suis convaincu de la nécessité de l'indépendance de la justice face au pouvoir politique. Et qu'on l'appelle autorité au pouvoir judiciaire, passons, peu importe ici. Cette indépendance, elle n'est pas une fin en soi. Elle est l'indispensable garantie que les juges se prononceront avec objectivité sur les faits qui sont en cause, sur la responsabilité de l'accusé, et cela sans pression gouvernementale. Et puis, évidemment, leurs opinions personnelles mises de côté. Plus encore, cette indépendance est la garantie de la qualité juridique, de la pureté, oserais-je dire, de leurs décisions, et au total donc, de la jurisprudence que l'ensemble des tribunaux produisent. Le droit, c'est un discours juridique autonome, distinct du discours politique. C'est un discours qui a son lexique, sa méthodologie, des règles qui lui sont propres. Et je pense, c'est ma conviction, que sa vocation est de disserter sur les droits et les libertés des personnes, d'en préciser les périmètres et leurs protections, de manière individuelle et collective, dans la sphère de la vie privée comme dans celle de la vie publique, au cœur de notre société, autant présent. Le droit est dynamique, il est vivant, selon l'expression consacrée désormais. Mais il y a 14 ans, en 2010, Mireille Delmas-Marty avait écrit dans un livre titré « Liberté et sûreté dans un monde dangereux » que notre conception classique de l'état de droit était minée, non seulement par le terrorisme, par le gangstérisme, mais aussi par les réponses qui ont apporté de longue date les gouvernements successifs en privilégiant les impératifs sécuritaires au préjudice des libertés et de la sûreté. C'était sa thèse. Mais les années suivantes lui ont hélas donné raison. De 2015 à 2021, en 6 ans, des événements de nature fort différente les uns les autres ont précipité et condensé ce que l'on peut qualifier de crise de l'état de droit. Ce sont d'abord les terribles attentats terroristes commis à Paris en janvier-novembre 2015 et puis à Nice en 2016. D'autre part, le mouvement social des Gilets jaunes en 2018 et 2019. Et enfin, la pandémie du coronavirus et le confinement général de la population en 2020 et 2021. Il m'a été personnellement difficile de me résoudre à l'admettre parce que je suis d'un naturel optimiste, mais je pense que notre état de droit a alors régressé, ce que j'illustrerai tout à l'heure par des exemples toujours concrets. Je voudrais aussi vous dire que le pire est peut-être à craindre pour l'avenir, parce que voilà plusieurs années que des responsables de deux des principaux partis politiques français réclament le retrait de la France de la Convention européenne des droits de l'homme, ou du moins la suppression du droit de recours individuel des personnes devant la Cour européenne, ce qui revient au même, puisque ce droit de recours est un élément nécessaire de l'adhésion à la Convention. Bien. Il s'agit, je le dis, du Rassemblement national et de Les Républicains, et je les cite pour la clarté de notre débat juridique, pas pour vous faire part de mes opinions politiques, et il va de soi que chacun est libre ici des siennes. Mais ce projet ne s'explique pas seulement par une doctrine souverainiste au sens de nationaliste, mais davantage par une doctrine de restauration de la primauté du politique sur le juridique, en réaction justement à l'essor du droit européen et à sa diffusion dans les droits nationaux que je viens d'évoquer. Et c'est une doctrine qui est véhiculée en Europe dans d'autres mouvements politiques que je qualifierais de conservateurs, et par exemple au Royaume-Uni, où Mme Suella Braverman, qui était l'ancienne ministre de la Justice de Boris Johnson, s'était écriée dans une formule extraordinaire que je trouve très expressive, « Le politique a été capturé par le droit, et c'est notre débat ». Je pose donc la question, si le Rassemblement national parvient au pouvoir, ce qui est possible, voire probable, à l'issue d'élections régulières, eh bien, mettrait-il en œuvre ce projet ? Point d'interrogation. Parce que les conséquences d'un tel choix politique seraient assurément majeures en France sur nos systèmes juridiques et judiciaires, immédiatement et à terme. Et je pense qu'on ne peut plus disserter sur l'état de la justice et son avenir sans se préoccuper de cette éventualité à laquelle il faut réfléchir et se préparer. Mais plus encore, imaginons, mais cette fois-ci par dystopie, que dans un avenir plus lointain, un gouvernement autoritaire, même issu d'élections régulières là encore, suspende carrément l'état de droit et lui substitue un état d'urgence permanent qui bride les libertés fondamentales d'aller et de venir, d'expression et d'information, de réunion et de manifestation, en imposant des statuts civils et administratifs discriminatoires et vexatoires, en fichant les opinions et les mœurs des citoyens, en utilisant tous les outils numériques de la surveillance en masse de la population. Est-ce que la justice saurait s'élever et y résister ? Alors, je dois avouer que, personnellement, la mémoire de l'effondrement de la Troisième République en 1940 et de la soumission
de l'institution judiciaire au régime de Vichy me hante depuis longtemps, depuis toujours. Et je ne suis pas le seul, parce que Jean-Paul Jean en a témoigné ici même l'autre jour. Mais je dois dire aussi que cette mémoire m'inspire et me stimule, parce que l'histoire n'est pas écrite à l'avance, parce que notre détermination, nos actions peuvent influer sur son cours, à la condition bien sûr que nous agissions les uns et les autres, mais à la place et dans les fonctions qui sont les nôtres, et me concernant, nous, les avocats. Alors pour cela, il faut de la constance et de la détermination, ce sont des qualités morales, mais il faut aussi des moyens, c'est-à-dire des statuts juridiques, des statuts protecteurs, des procédures efficaces, et puis de bons outils de travail, une formation professionnelle approfondie et une culture toujours en éveil. Et je pense que c'est en jetant un regard sur les décennies passées que l'on réalise la formidable évolution de notre monde judiciaire dont je parlais, malgré les archaïsmes qui l'ont freiné et qui la freinent encore, la contingence qui la désoriente et les clivages qui la bloquent sur des questions qui sont pourtant fondamentales. Mais la série de conférences qui se déroule ici à l'Académie des sciences morales et politiques cette année en rend parfaitement compte et nous éclaire sur la complexité des problèmes posés et sur la subtilité des réponses à y apporter. Donc à mon tour et de ma place, j'ai choisi juste quelques dates qui, à mon avis, ont déterminé et façonné le présent de notre monde judiciaire et par conséquent son avenir. Alors tout d'abord, première date, c'est 1980, bien sûr. Date de la loi d'abolition de la peine de mort en France portée par Robert Badinter, et nous avons bien sûr une pensée pour lui et sa mémoire, mais aussi, et je crois qu'il l'avait souhaité, date du décret d'ouverture du droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui est du même jour, du 9 octobre 1981. Alors je voudrais dire que pour toutes celles et ceux qui sont nés depuis 1981, ça semble de l'histoire ancienne, mais jusque dans les années 1970, les grands procès qui tenaient en haleine la société, l'opinion publique, se déroulaient devant les cours d'assises. Lorsque se jouaient des condamnations à mort requises par des procureurs qui étaient convaincus de la nécessité répressive de la peine capitale et contre lesquels les avocats plaidaient avec une éloquence désespérée. Une culture, je dois le dire, mortifère avait profondément infusé le barreau. Sachez que les avocats n'accédaient au statut de ténor, comme on les appelait, qu'après avoir assisté à l'exécution d'au moins un condamné au pied de la guillotine. À tel point que, bien des années plus tard, l'un d'eux m'a confié, confidentiellement, qu'il avait regretté que son dernier client ait été gracié. Et ils furent nombreux à souffrir de la nostalgie de ce passé, et je vous l'assure, en conservant longtemps après le même comportement en audience, la même façon de plaider, mimée par de plus jeunes avocats avec grandiloquence, je veux dire par là toute la distance qui nous sépare à présent de ce passé. Dans les années 1980, un autre grand débat nous anima, et il concernait l'institution du juge d'instruction. Alors il faut bien dire que les errements de certains magistrats l'avaient gravement déconsidéré. J'ai en effet une pensée pour Christine et Jean-Marie Villemin, toujours en quête de vérité 40 ans après l'assassinat de leur fils Grégory, le 16 octobre 1984. Mais d'autres juges d'instruction s'illustrèrent en instruisant les grandes affaires politico-financières ou sociales de l'époque, à force de ténacité, d'habileté, c'est vrai, mais aussi, il faut bien le dire, de coups d'éclat dans les médias, et en usant, voire en abusant, de leur pouvoir d'investigation, se jouant même des limites que tentait de leur imposer leur procureur. Et c'est à cette époque qu'une commission avait alors été mandatée pour imaginer un nouveau système de mise en état des affaires pénales, c'était son intitulé, qui était présidé par Mireille Elmas-Marty, que je citais tout à l'heure, et qui était entourée par Bruno Cotte, n'est-ce pas, mais également Henri Leclerc, Pierre Truche, Marcel Lemonde, Jean-Paul Costa, Yves Baudelot et d'autres, tous de beaux esprits et de grands juristes, je dois le dire bien sûr, qui proposèrent finalement d'abandonner l'ancien système hérité du code d'instruction criminelle napoléonien pour un tout nouveau système moderne de nature accusatoire, mais dans les détails duquel, eh bien, je ne rentrerai pas, et pour cause, parce que dès octobre 1990, je m'en souviens encore, le ministre délégué à la justice, maître Georges Kiechmann, annonçait que, réflexion faite, eh bien, le gouvernement renonçait à ce projet, préférant conserver le système de l'instruction judiciaire, quitte à en améliorer les modalités. Mais c'est un problème, parce que ce fut là le début d'une suite de plus d'une trentaine de lois de réforme de procédure pénale, et cette réforme n'est toujours pas achevée au jour d'aujourd'hui. Prenons l'exemple de l'année 1993, qui a été très importante. Cette année-là, deux lois de suite furent votées et promulguées. Alors, la première date du 4 janvier 1993. Elle avait été portée par Michel Vauzelle, qui était le garde des Sceaux, et ça a été une loi très novatrice. Les avocats pouvaient enfin visiter les personnes placées en garde à vue, ce qui était nouveau. Il était prévu qu'à compter de septembre, ils pourraient même les assister lors des auditions. Et puis, ils pouvaient demander au juge d'instruction d'accomplir des actes d'investigation complémentaire devant le tribunal lors du procès. Les débats se dérouleraient de manière accusatoire, le procureur menant l'interrogatoire et l'avocat de la défense le contre-interrogatoire à compter de septembre également. Mais de cette façon-là, plusieurs des propositions de la commission Delmas-Marty auraient ainsi été insérées dans le code de procédure pénale. Hélas, mille fois hélas. À la suite des élections législatives du mois de mars 1993, le gouvernement d'Édouard Balladur, Premier ministre, mandata une autre commission qui conclut à l'abandon des deux tiers de ces innovations. Et une loi suivante, du 24 août 1993, six mois plus tard, les abrogea donc avant même leur entrée en vigueur, et notamment celle qui prévoyait l'assistance des personnes en garde à vue lors de leurs auditions et celle qui rénovait les audiences de jugement et qui sont restées lettres mortes à cette époque. Quel dommage ! Parce que, à ce jour donc, plus de 30 ans plus tard, eh bien, nous demeurons les tributaires de cette incapacité de réforme, non seulement des procédures de la justice pénale, mais aussi de ses structures. Le pouvoir politique en France s'est défié de la justice et s'en défie toujours, raison pour laquelle il l'a mal gérée et sous-développée des décennies durant. C'est Jean-Marc Sauvé qui l'a dit ici même. Bien. Plus encore, à mon avis, le politique l'a mal pensé, parce qu'il n'a conçu sa mission que de manière régalienne, purement autoritaire et répressive. Et me passe par l'esprit, le souvenir de Joseph de Maistre, qui avait écrit en 1821, dans son livre « Les soirées de Saint-Pétersbourg », un livre magnifiquement effrayant, si je puis dire, je cite, « que le glaive de la justice doit toujours menacer de frapper, car le bourreau était à ses yeux, je recite, l'horreur et le lien de l'association humaine, celui dans lequel nous sombrerions tous dans le chaos. » Joseph de Maistre, écrivain majeur, écrivain terrifiant. Mais une telle conception de la justice pénale est-elle franchement compatible avec une société libre, une démocratie ? Bien, je ne le pense pas, et je crois surtout que c'est la raison pour laquelle, eh bien, après l'abandon si regrettable du projet de la commission Delmas-Marty, les gouvernements suivants furent conduits à mettre à jour le code de procédure pénale, mais retouche après retouche, et notre présent ne se comprend qu'à la lumière de ce passé. Cependant, certaines de ces nombreuses lois ont bonifié le système de procédure, et cela en profondeur, et notamment la loi du 15 juin 2000, qui a été portée par Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, remarquable, qui développa les droits de la défense dans la suite de la précédente loi du 4 janvier 1993. Alors, se sont développés des droits de défense essentiels pour les avocats, demandes d'investigation, requêtes en nullité, de procédure, en prescription de l'action publique, en clôture d'une information judiciaire trop lente ou trop longue. Et voilà des actions que les avocats pénalistes d'aujourd'hui manient au quotidien avec maîtrise. Et certains en sont des virtuoses de la procédure pénale, qu'ils défendent des gangsters, des entrepreneurs, des élus, des politiques, des militants ou de simples prévenus en comparution immédiate. L'autre jour, j'entendais Jean-Marc Sauvé, que je cite à nouveau, juger que le code de procédure pénale avait été rendu illisible par l'accumulation de ces modifications législatives. De mon point de vue, disons que la défense pénale est devenue une affaire de spécialistes, de techniciens, de juristes compétents, plus encore que de brillants orateurs. C'est une discipline, c'est un métier. Nouvelle séquence, 2004, essentielle. Cette année-là, Dominique Perben était le garde des Sceaux et il porta une loi majeure du 9 mars qui fit vraiment date. Il inaugura les JIRS, les juridictions interrégionales spécialisées dans la répression de la criminalité organisée et le terrorisme, qui sont dotées de pouvoirs d'investigation spécifiques plus intrusifs et performants. D'autres pôles furent organisés pour la santé publique, les accidents collectifs et bien sûr les délits économiques et financiers. Et c'est une évolution qui a abouti plus tard à la création du PNF, le parquet national financier en 2014, du PNAT, le parquet national antiterroriste en 2019, et la JUNALCO, enfin, la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée à compétence nationale en 2020, tous centralisés au tribunal de Paris qui est devenu un tribunal à portée nationale. Mais c'est aussi cette loi du 9 mars qui a initié la nouvelle procédure dite de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui a suscité de si fortes critiques à l'époque, dont on se souvient. Mais 20 ans après aujourd'hui, la pratique du plaider coupable s'est banalisée et généralisée, non seulement pour traiter les délits ordinaires, mais aussi les affaires de corruption, de fraude fiscale, dans le cadre de ce que l'on appelle les CEJIP, les conventions judiciaires d'intérêt public, dont le PNF publie la liste sur son site internet, mais vraiment comme des trophées, avec fierté. Mais pour ces affaires financières, les montants des saisies pénales et des confiscations réalisées se chiffrent en millions d'euros. Donc, un bilan. Aujourd'hui, ce n'est plus le juge d'instruction qui est le magistrat le plus puissant de France. C'est terminé. Ce sont les procureurs de la République qui sont les maîtres d'œuvre de ce formidable appareil judiciaire. Leurs pouvoirs sont considérables. Ce sont eux qui décident d'ouvrir des procédures d'information ou de superviser des enquêtes préliminaires de police. La loi de mars 2004 et d'autres par la suite leur ont conféré des pouvoirs d'investigation qui n'appartenaient jusqu'alors qu'aux juges d'instruction. Et puis c'est à eux de décider de la tenue d'un procès ou de classer l'affaire sans suite, ou bien de proposer un plaidé coupable. Et dans les médias, ce sont les procureurs qui prennent la parole pour informer la presse de l'avancée d'une affaire, comme d'ailleurs l'article 11 du Code de procédure pénale leur en confie le soin depuis les années 2000. Et même sur les réseaux sociaux, le procureur de la République incarne désormais l'autorité judiciaire dans l'opinion publique et chacun se souvient très bien du visage grave et de la parole rassurante de François Molins lorsqu'il était procureur de Paris lors des attentats terroristes de 2015 et de 2016. Voilà pour les acquis. Mais je pense que cette nouvelle arborescence de la justice pénale n'est pas sans quelques graves défauts de conception. Et le premier n'est pas le moindre, et il concerne les avocats. Comme je viens de l'expliquer, depuis 2004, les procureurs ont toute latitude pour conduire les investigations dans le cadre d'enquêtes préliminaires sans ouverture d'informations judiciaires, sans saisir un juge d'instruction, sauf dans les affaires criminelles. Mais du coup, au cours de ces enquêtes, les personnes concernées, qu'elles soient victimes ou suspectées, se trouvent privées de tout statut juridique et par conséquent démunies de tout droit de défense jusqu'à ce que le procureur leur adresse une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel en qualité de partie civile ou de prévenu, ou ne finissent par saisir un juge d'instruction. Mais tout le panel des droits de la défense, dont les lois de 1993 et 2000 que j'évoquais à l'instant ont généreusement doté les avocats, tout ce panel de droits de la défense est tout simplement éludé. Il leur est impossible de prendre connaissance du dossier, de contester la légalité de la procédure, de demander des actes d'investigation lors de ces enquêtes préliminaires, à la différence des informations judiciaires. Et cela à la discrétion du procureur qui a de plus lui-même le choix du mode de poursuite et qui sera, lors du procès, chargé de l'accusation. Donc, question, est-ce que dans de telles conditions, le procès peut être dit équitable ? Alors, c'est la question que nous avons été quelques-uns des avocats à poser à la Cour de cassation et nous étions absolument sûrs de notre bon droit. Mais je dois dire que celle-ci nous a déçus pour une fois parce qu'elle nous a répondu de manière constante que cette option procédurale ne privait pas, je cite hein, exactement, la personne d'un procès juste et équitable, celle-ci quant au respect des droits de la défense ayant devant la juridiction de jugement des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information devant un juge d'instruction. Alors permettez-moi d'exprimer mon très net désaccord avec la Chambre criminelle, ainsi d'ailleurs qu'avec le Conseil constitutionnel qui a rejeté l'une de nos questions prioritaires de constitutionnalité sur ce point. Parce que le procès n'est pas le même du tout. Cela étant, les récriminations des avocats n'ont pas été vaines, puisque trois lois de suite, et l'on voit la façon avec laquelle on réforme le système judiciaire, en 2014, 2016 et 2021, ont amendé le Code de procédure pénale. Il y a maintenant un article 77-2 qui prévoit que le procureur peut remettre à l'avocat une copie du dossier en fin d'enquête préliminaire et lui demander ses observations avant de prendre sa décision sur la suite à donner à l'affaire. Mais vraiment, cela reste très sommaire par rapport à l'exercice des droits de la défense devant un juge d'instruction. Mais c'est ainsi, et c'est une pratique qui s'est vraiment amplement développée aujourd'hui. Mais ce nouveau système judiciaire, si je puis dire, présente un second défaut, et qui n'est pas moins grave, et il concerne justement le statut des procureurs. Et cela fait vraiment débat. Il me semble que nous avons oublié qu'à l'origine, Cambacérès, le concepteur du code d'instruction criminelle, lors des débats qui se tinrent devant le Conseil d'État en 1808, avait justifié la nouveauté du juge d'instruction par la nécessité de cliver les fonctions de poursuite et d'instruction. Pour lui, le même magistrat ne pouvait pas instruire puis poursuivre sans manquer à l'exigence d'impartialité. Et c'est pourquoi le juge d'instruction devait être un magistrat du siège, statutairement indépendant, totalement libre de mener ses investigations, mais dans les limites de la saisine que lui fixait le procureur quant à lui placer sous l'autorité de sa hiérarchie, au sommet de laquelle le ministre de la Justice pouvait lui donner toutes les directives générales et individuelles que le gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir politique, déciderait. Et c'est cette conception originelle du duo procureur-juge d'instruction qui a tant évolué depuis 20 ans et qui n'a plus aujourd'hui cette cohérence. Et non seulement parce que les procureurs mènent eux-mêmes l'enquête à la place des juges d'instruction dans un nombre croissant d'affaires comme nous venons de le voir, mais aussi parce que leur statut n'a pas été mis au niveau pour jouer ce rôle, ou du moins très insuffisamment. Alors je voudrais être très précis à ce stade, c'est un débat essentiel sur lequel tout le monde est en désaccord. Comme ça, les choses sont claires. Il nous faut reprendre le fil de l'histoire. Dans les années 1990, je pense pouvoir dire que des gouvernements ont tenté de manipuler des affaires dites politico-judiciaires, soit pour les accélérer, soit pour les freiner ou pour les étouffer, et cela au point qu'en 2004, il fut décidé, et Dominique Perben était garde des Sceaux, je le rappelle, que le ministre de la Justice ne pourrait plus à l'avenir, ne donner que des directives écrites aux procureurs et non plus orales, et il ne pourrait plus coordonner des poursuites judiciaires et non plus de ne pas engager de poursuites ou de les classer sans suite. Acte 1. Acte 2, en 2013, Christiane Taubira, à son tour garde des Sceaux, a avancé. L'article 30 du Code de procédure pénale dispose depuis que le ministre de la Justice, je cite, adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. Il ne peut pas leur adresser des instructions dans des affaires individuelles, dans aucun cas. Et donc, les procureurs se sont vus accorder une indépendance certaine, effective, mais qui est restée relative parce que ni les modalités de leur nomination, ni les procédures disciplinaires ou de mutation les concernant n'ont été repensées. Elles sont restées dans les mains du pouvoir politique, et cela aux grandes dames des syndicats de magistrats. Et c'est alors que la puissante USM, l'Union syndicale des magistrats, a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité tout à fait pertinente, à mon sens, contestant l'article 5 du statut de la magistrature, selon lequel, je cite, « les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice ». Mais alors, le maintien de cette mention n'était-il pas en effet contradictoire avec ce nouvel article 30 du Code de procédure pénale ? Quelle était désormais la nature de cette autorité du ministre du gouvernement sur les procureurs ? That is the question. Et c'est ainsi que le débat s'est ouvert devant le Conseil constitutionnel. Je me permets de le dire, que j'y étais pour l'USM, et je me souviens parfaitement de cette audience. Le Conseil a rendu une décision tout à fait intéressante. Il a validé l'article 5 du statut, mais avec ce que l'on appelle des réserves d'interprétation, et je le cite à nouveau. Il découle, a-t-il jugé, de l'indépendance de l'autorité judiciaire à laquelle ils, les procureurs, appartiennent, un principe selon lequel le ministère public exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, l'action publique devant les juridictions pénales, ce qui revenait à conférer à cet article 30 du Code une valeur telle que son éventuelle abrogation serait, à mon avis, jugée inconstitutionnelle si la question devait à l'avenir se reposer, et elle se reposera, à mon avis. Mais je n'ai pas de certitude sur la solution qui serait retenue. Le sujet est sensible, il était à l'époque extrêmement sensible et très sérieusement discuté. Pourquoi ? Parce que dans les années précédentes, et notamment en 2010, le Conseil constitutionnel avait affirmé que, je cite, « l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ». Mais cette même année 2010, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme en avait fortement douté dans ses célèbres arrêts Medvedev contre France et Moulin contre France, et qu'elle avait été suivie par la chambre criminelle de la Cour de cassation française, qui avait elle aussi jugé dans un arrêt du 15 décembre 2010, qu'elle avait publié à son bulletin des arrêts de la Cour de cassation, que le statut des magistrats du ministère public n'était pas compatible avec les exigences de la Convention européenne en raison de leur lien avec le gouvernement. Alors, si la CEDH a depuis tempéré sa critique dans un arrêt de 2018, Thiam contre France, c'est justement à la suite de cette décision du Conseil constitutionnel de 2017. Elle a jugé que, je cite, « la seule nomination de magistrat par un membre de l'exécutif ne crée pas pour autant une dépendance si, une fois nommé, ces magistrats ne reçoivent ni pression ni instruction dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles ». Et il se trouve que la Cour de justice de l'Union européenne, elle aussi, s'est rangée à cette analyse dans un arrêt l'année suivante, en 2019. Je résume, la doctrine des juridictions européennes est claire. Si les procureurs peuvent être dotés de pouvoirs intrusifs et coercitifs, ce n'est qu'à la condition nécessaire que leur statut leur garantisse une indépendance effective vis-à-vis du pouvoir politique. Alors c'est à mon avis une question tout à fait essentielle aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte qu'en discutant avec les uns et les autres, eh bien, les tenants d'un parquet aux ordres du gouvernement, de manière classique, napoléonienne, dirais-je, n'avaient pas tous pris la mesure de cette évolution de notre architecture judiciaire que je viens de retracer. Et puis, il est vrai que d'autres sont partisans d'une rupture radicale, c'est-à-dire la scission du corps de la magistrature, afin d'affirmer l'indépendance des juges du siège, qui seraient dès lors séparés des magistrats du parquet, quant à eux relégués au rang de fonctionnaires et même relogés ailleurs que dans les palais de justice. Alors que chacun soit bien libre de ses opinions, évidemment, mais pour ma part, moi je plaide pour un statut constitutionnel des magistrats du ministère public égal à celui des juges du siège quant à leur nomination, leur promotion, les poursuites disciplinaires les visant, et puis, bien sûr, pour une réelle indépendance, leur réelle indépendance dans la conduite de l'action publique, lors de l'enquête, puis du procès. Et que la magistrature ne forme qu'un seul corps ou soit scindé en deux, en réalité ne me semble pas primordial, puis de toute façon ni réalisable à moindre coût et à court terme. Mais je crois qu'en introduction, je vous ai donné les raisons de ma position. C'est que si par malheur un régime autoritaire s'installait en France, eh bien les procureurs seraient mieux protégés par ce statut qui leur permettrait de continuer d'exercer leurs fonctions et leurs pouvoirs au service du droit et des libertés fondamentales sans devoir se soumettre à un pouvoir arbitraire, discriminatoire, voire criminel. Voilà mon point de vue. Alors je dois vous dire que les procès disciplinaires qui sont tenus devant le Conseil supérieur de la magistrature au cours des années 2022 et 2023, auxquels vous faisiez référence tout à l'heure, m'ont conforté dans cette idée. Parce que l'un de ces procès mit en cause un procureur du parquet national financier qu'un avocat avait traité dans les médias de barbouze, promettant, je cite, « de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière du PNF ». Et puis un autre procès visa un juge d'instruction que ce même avocat avait insulté en menaçant de déposer plainte contre lui. Or, il se trouve que dès qu'il fut nommé ministre de la Justice en juillet 2020, Monsieur Dupond-Moretti, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ordonna des enquêtes administratives à l'encontre de ces magistrats. Bien. Et devant le Conseil supérieur de la magistrature, il se trouve que c'est moi, leur avocat, qui les ai défendus avec détermination, en dénonçant, je cite, « les représailles qui avaient été exercées illégalement à l'encontre de ces magistrats par ce ministre ». Alors c'est à dessein que j'ai employé ce terme de représailles, en m'inspirant de récentes décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait posé cette condition. Tout gouvernement qui poursuit disciplinairement un magistrat doit justifier qu'il n'agit pas à son encontre par représailles. Et voilà la règle qui devrait être inscrite dans le marbre du statut de la magistrature parce que c'est à mes yeux une garantie nécessaire pour empêcher qu'à l'avenir de telles poursuites soient exercées de manière arbitraire et abusive. Alors, pour finir là-dessus, vous vous souvenez sans doute qu'au terme de ces procès, le CSM a finalement estimé que ces magistrats n'avaient commis aucune faute disciplinaire, mais que le ministre, en revanche, s'était placé dans, je cite, une situation objective de conflit d'intérêts en ordonnant de telles enquêtes à leur encontre, et que la Cour de justice de la République, en novembre 2023, a relaxé M. Dupond-Moretti, qui avait été poursuivi pour avoir commis ces actes, au motif, je le rappelle, qu'il n'aurait pas eu suffisamment conscience des conflits d'intérêts dans lesquels il s'était fourvoyé, sans autre commentaire. Mais je le soulignais parce que ces procès m'ont permis de mieux prendre conscience de la fragilité préoccupante de notre état de droit, mais en même temps de sa résilience, de sa force, parce que les faiblesses et les défauts de ce système judiciaire que je viens d'analyser sont en effet compensés par des qualités dynamiques tout à fait indéniables, qui se sont considérablement développées depuis plus d'une dizaine d'années et précisément depuis 2010 et 2011. Et ces deux dates sont tout aussi mémorables que les précédentes, 1981, 1993 et 2004. Alors je voudrais encore tenir quelques propos sur cette évolution remarquable. En deux ans, c'est une véritable révolution de notre système légal qui s'est opéré. En 2010, l'innovation de la question prioritaire de constitutionnalité a provoqué l'éclosion d'un nouveau champ juridique que l'on pourrait dénommer droit constitutionnel pénal ou judiciaire. Une éclosion tout à fait inattendue. Les avocats l'ont aussitôt investi. Cela a beaucoup stimulé leur imagination juridique. Et les juges du Conseil constitutionnel, je dois dire, leur ont accordé une écoute très attentive et bienveillante, sous la présidence de Jean-Louis Debré d'abord, puis de Laurent Fabius ensuite, puisqu'en 14 ans, ce sont presque 1100 décisions qu'ils ont rendues sur questions prioritaires de constitutionnalité, n'est-ce pas, en construisant une jurisprudence tout à fait créatrice sur de nombreux sujets qui étaient restés jusqu'alors en souffrance. Et les premières décisions, on s'en souvient, ont provoqué la réforme de la garde à vue que le gouvernement d'Édouard Balladur avait bloquée en 1993, j'en ai parlé tout à l'heure, et qu'aucun gouvernement n'avait depuis remis à l'ordre du jour, malgré l'insistance de la Cour européenne. Alors depuis, l'assistance des personnes gardées à vue par leur avocat et la notification de leur droit au silence se sont banalisées dans la pratique judiciaire. C'est au visa de l'article 9 de la Déclaration des droits de 1789 que le Conseil constitutionnel a jugé que nul n'est tenu de s'accuser. Il a aussi ancré les règles de responsabilité pénale des mineurs et même reconnu un principe de fraternité qui fait discuter. Le droit à un recours effectif à l'encontre de toute décision faisant grief a été systématisé. Et puis, comme on l'a vu, le principe d'indépendance et de l'autorité judiciaire a été réaffirmé, incluant les magistrats du ministère public. Et d'autres décisions, en revanche, ont évidemment pu décevoir l'attente de ceux qui l'avaient saisi de QPC, par exemple sur le secret professionnel des avocats, nous avons été déçus, sur le secret des sources des journalistes, les journalistes ont été déçus, et bien également qui n'a pas reconnu de valeur constitutionnelle, de même que le Conseil constitutionnel a renoncé à consacrer le jury populaire récemment, ce qui en a déçu plus d'un également. Mais c'est ainsi. Mais je dis qu'au total, c'est une œuvre jurisprudentielle tout à fait remarquable. Et cette procédure de question prioritaire de constitutionnalité aura somme toute permis de moderniser le système judiciaire sur bien des thèmes que ni les gouvernements ni le Parlement n'avaient su traiter, soit par indifférence ou méconnaissance de ces sujets judiciaires, soit paralysés par les clivages partisans. Alors, les critiques adressées au Conseil constitutionnel sont nombreuses et elles sont vives. On lui reproche tantôt de se comporter comme un législateur, tantôt de manquer d'indépendance vis-à-vis du politique, et encore très récemment. Mais on ne peut pas ignorer ce bilan que, pour ma part, je tenais absolument à saluer ici. Je voudrais ajouter, et c'est essentiel, qu'en 2011, c'est la Cour de cassation qui a mené sa propre révolution jurisprudentielle, si je puis dire, mais à bas bruit. Peu nombreux furent ceux qui lurent les arrêts qu'elle rendit le 15 avril 2011 en assemblée plénière. Et la presse n'en rendit guère écho à cette époque. Et pourtant, la Cour avait alors à se prononcer sur l'assistance des personnes gardées à vue par un avocat que le Conseil constitutionnel venait d'imposer quelques mois auparavant. J'en ai parlé. En laissant au Parlement un délai au 30 juin 2011 pour amender le Code de procédure pénale. Et du coup, le Parlement a voté une loi le 14 avril 2011. Mais il a décidé de reporter son entrée en vigueur au 1er juillet 2011. Je cite les dates, elles sont importantes. Le 15 avril 2011, date de ces arrêts, le jour même de la publication de cette loi au journal officiel, la Cour de cassation jugea que cette assistance par un avocat et la notification du droit au silence des personnes en état d'arrestation résultaient d'un principe fondamental issu des articles 5 et 6 de la Convention européenne et qu'à ce titre, il fallait les respecter et les faire appliquer sans aucun délai immédiatement et même rétroactivement à toutes les procédures en cours, alors que le législateur venait de promulguer sa loi qui rentrerait en vigueur au mois de juillet. Et je dois vous dire qu'en lisant cela, j'en fus vraiment interloqué et je me souviens encore de ma surprise, parce que nous, les avocats, depuis des années, nous l'avions saisi de pourvoi en cassation sur cette question précise et que nous avions perdu tous nos recours, qui n'avaient même pas été examinés, ils avaient été filtrés, comme l'on dit, parce que le sujet ne semblait pas suffisamment sérieux. Et voici que soudainement, la Cour de cassation changeait radicalement d'avis, entrait manifestement en compétition non seulement avec le Conseil constitutionnel, mais avec le Parlement, du jamais vu dans notre histoire de mémoire. Or, c'est bien ce qui s'est passé. Et du coup, du jour au lendemain, les policiers et les gendarmes ont accueilli les avocats en garde à vue, tandis que les barreaux se sont organisés en permanence d'avocats afin que toute personne arrêtée puisse être effectivement assistée. Et peu après même, ce droit fut étendu aux personnes convoquées pour une simple audition libre. 10 ans plus tard, un bilan, eh bien, plus personne n'imaginerait un retour à l'ordre ancien. Si je souligne ces arrêts, c'est parce qu'ils sont plus importants encore ils ont révolutionné notre méthodologie juridique, notre système légal. Ce jour-là, la Cour de cassation, et c'est ce qui fait débat, a inversé l'ordre juridique classique. Parce qu'elle a justifié les décisions qu'elle venait de prendre au visa de la Convention européenne, au motif que, et là je cite, c'est très important, selon elle, les États adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sans attendre d'être attaqués devant elle, ni d'avoir modifié leur législation. Et donc, la Cour de cassation a rompu là avec sa jurisprudence passée. Je rappelle qu'en 1995, elle avait jugé dans un arrêt que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ne pouvaient pas avoir, je cite encore, « aucune incidence directe en droit interne sur les décisions des juridictions nationales ». Elle jugeait donc exactement l'inverse. En 1975, elle avait même considéré que globalement, les dispositions du Code de procédure pénale français n'étaient pas incompatibles avec les termes de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle jugeait à nouveau l'inverse, puisqu'elle dotait à présent les juges d'un pouvoir tout à fait extraordinaire. Il faut bien se rendre compte que les juges, selon la Cour de cassation, ont le pouvoir d'écarter l'application d'une loi nationale qui ne serait pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et cela, que ces arrêts aient été rendus envers la France ou n'importe quel autre État signataire de la Convention. Et je rappelle que concernant les questions d'assistance par un avocat des personnes placées en garde à vue, les arrêts Saldus et Dayanan de la Cour européenne avaient été rendus contre la Turquie en 2008 et en 2009. Alors, il y a des événements qui font date, celui-là en est un, et c'est un événement qui fait débat, évidemment, parce que la Cour de cassation, depuis, et sous son impulsion, les cours d'appel et les tribunaux, dans leur grand nombre, apprécient les questions de droit d'une manière tout à fait nouvelle, suivant une méthodologie originale. Rendons-nous bien compte que le juge n'est plus la bouche de la loi, un opérateur mécanique appliquant un pur syllogisme juridique, comme l'avait rêvé Beccaria, si tant est que le juge ne l'ait jamais été. Il doit maintenant procéder à ce que l'on appelle un contrôle de proportionnalité. Et c'est une théorie qui a été définie par M. Pascal Chauvin, éminent président de chambre à la Cour de cassation, récent président de la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un article fameux paru à la Gazette du Palais. Alors je cite parce que c'est essentiel. Le contrôle de proportionnalité est le contrôle exercé par une juridiction et qui consiste à vérifier concrètement que l'application d'une règle de droit interne ne conduit pas à porter une atteinte disproportionnée à un droit fondamental garanti par une convention internationale ou par une norme nationale au regard du but légitime poursuivi par cette règle. Mais, j'ajoute, à la condition que l'avocat d'une des parties le lui demande parce que le juge ne peut pas s'auto-saisir de telles questions, et c'est une limite nécessaire à son pouvoir prétorien. Mais alors, écoutez bien, parce que ça va vous surprendre sans doute, c'est ainsi que se développe la jurisprudence. Alors, je vous cite quelques exemples les plus topiques. Le 26 février 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'une militante ukrainienne, qui avait réalisé une performance au musée Grévin en s'attaquant à la statue de cire du président Poutine et en la détruisant, eh bien, elle n'était pas punissable du chef d'exhibition sexuelle car, je cite, « le comportement de la prévenue s'était inscrit dans une démarche de protestation politique et dès lors sa condamnation constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression ». En septembre 2021, la Chambre criminelle a de même annulé la condamnation de prévenus qui avait été poursuivi pour le vol d'un portrait du président de la République dans une mairie qu'il revendiquait au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Même théorie, mais les juges, je dois le dire, se prononcent au cas par cas selon les circonstances précises, parce que d'autres militantes féminines qui avaient manifesté lors d'une commémoration du 11 novembre 1918 devant de nombreux chefs d'État, ont vu leur condamnation confirmée. ainsi que d'autres décrocheurs du portrait du présidentiel, qui, quant à eux, avaient refusé de restituer le portrait après leur performance. Donc, eux ont été condamnés pour vol. Mais, par exemple, l'intrusion de militants de Greenpeace dans une centrale nucléaire n'a pas non plus été considérée comme légitime, atteinte à la sécurité nucléaire. Et les exemples sont ainsi nombreux, inutiles de les multiplier. Mais voyez comme le changement de paradigme est tout à fait majeur, parce que l'université nous avait enseigné depuis le XIXe siècle que le mobile de l'auteur d'une infraction était indifférent. Et voici qu'il explique son acte. Et cet acte n'est plus excusé par ce que le Code pénal appelle le fait justificatif d'état de nécessité, mais par l'exercice légitime d'une liberté fondamentale. Et c'est en disant cela que me vient à l'esprit cette pensée du célèbre Justice Holmes, le président de la Cour suprême des États-Unis des années 1900, trentaine d'années, jusque dans les années Roosevelt. Voilà ce qu'il écrivait. « Les théories prévalentes en morale et en politique, les préjugés même que les juges partagent avec leurs concitoyens, ont beaucoup plus à faire que le syllogisme pour rendre la justice. » Voilà qui est, n'est pas traditionnellement français. Et pourtant, n'est-ce pas dans cet esprit que les juges de la Cour de cassation ont jugé les affaires du mouvement MeToo en 2022, lorsqu'ils ont annulé les condamnations à des dommages d'intérêts prononcées à l'encontre de deux plaignantes au nom de leur liberté d'expression dans les médias. La liberté d'expression et le droit à l'information sont indéniablement mieux protégés à présent que dans le passé, peut-être abusivement. Est-ce un bien pour la société ? C'est le débat, et cela malgré les atteintes très souvent portées au secret des sources des journalistes et évidemment les difficultés de régulation des réseaux sociaux qui sont fort loin d'être solutionnées. Je dois ajouter que les avocats, eux aussi, ont bénéficié de cette jurisprudence puisque la CEDH leur a reconnu le droit de prendre la parole dans les médias pour la défense de leurs clients dans un arrêt de principe Olivier Maurice contre France d'avril 2015, protégé non plus par la classique immunité judiciaire, mais par l'article 10 de la Convention européenne. Et cette casuistique juridique, pour les avocats, tout se plaide désormais, n'est-ce pas ? Eh bien, cette casuistique juridique, elle s'exerce dorénavant à propos de tous les sujets que nous avons à plaider, nous les avocats, et que les magistrats ont à juger. Un dernier exemple tout à fait significatif. L'extradition d'anciens militants des Brigades Rouges que le gouvernement italien réclamait récemment et appuyé par le ministre de la Justice français qui les avait comparés, je cite, à des djihadistes de Daesh, n'est-ce pas ? Cette demande d'extradition a été refusée par la Cour de cassation. Pourquoi ? En raison de l'atteinte disproportionnée que cette extradition porterait à leur droit à une vie familiale normale au visa de l'article 8 de la Convention européenne, considérant l'ancienneté de leur installation en France, leur mode de vie comparé à leur passé. Alors, cet exemple m'a fait réfléchir parce qu'il montre à quel point le discours politique, surtout lorsqu'il est démagogique, et le discours juridique, pensé par d'austères magistrats, eh bien, ces deux discours peuvent diverger sur des questions si fondamentales. Alors, un pouvoir juridique comme celui-ci, bien sûr, eh bien, nécessite des règles, une méthodologie à suivre, des critères, des références dont la motivation de chaque décision prise doit rendre compte pour garantir sa qualité. Et c'est ainsi qu'une motivation doit être suffisamment détaillée et cohérente. Elle ne doit jamais être dubitative ou hypothétique sur les faits en cause et les règles de droit appliquées. Elle doit évidemment exclure toute manifestation d'opinion personnelle de ses rédacteurs. Et la Cour de cassation en donne l'exemple depuis qu'elle motive ses arrêts par un rappel de sa jurisprudence, ou de celle d'ailleurs du Conseil constitutionnel, de la CEDH ou de la CJUE, en prenant soin de justifier de façon très délayée ces variations ou ces revirements selon une méthodologie qui est assez nouvelle. Et elle les publie sur son site internet pour que tous les magistrats et les avocats puissent en prendre connaissance et en faire un bon usage. Mais j'ai noté que le président Christophe Soulard, dans un récent discours, s'était inquiété des raisons pour lesquelles trop de juridictions de cour d'appel à son sens ne suivait pas les décisions de la cour de cassation. Pour s'interroger s'il s'agissait d'une méconnaissance de la jurisprudence de la cour de cassation ou bien d'un désaccord avec les décisions prises. Alors moi, je pense que la paresse, c'est une faute, évidemment, mais la discussion, c'est un droit, et à la condition pour les avocats de s'en expliquer dans leurs conclusions et leurs plaidoiries, et pour les juges de s'en justifier par un jugement ou un arrêt motivé. Et dans ce cas de figure, comme dans tout système judiciaire, eh bien, l'affaire doit être tranchée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation qui arbitre et fixe alors sa jurisprudence. J'insiste sur cette exigence. Oui.
Compte tenu du temps qui passe, nous dispenser de ce que vous aviez prévu sur la motivation
des
arrêts de cour d'assises, dans la mesure où Olivier Laurent et Anne-Marie Galen en ont parlé tout récemment, pour passer à votre pratiquement phase terminale de votre propos.
Alors, je voudrais simplement dire que le droit n'est pas parfait, qu'il est un luxe des sociétés riches et en paix civile, et qu'il peut être trompeur et qu'il peut masquer la dureté du réel, l'imperfection, et que quelques exemples peuvent le montrer. Le droit à être jugé dans un délai raisonnable est fondamental, et pourtant les procédures s'étirent sur des années sans aucune sanction juridique. Le code de procédure pénale ne prévoit pas de nullité ou de péremption d'instance. Nous avons protesté, mais nous avons tous perdu tous nos recours jusqu'à ce que la Cour de cassation finisse par juger en novembre 2022 que si le procès ne peut plus se tenir équitablement en raison du temps passé, alors les juges doivent relaxer les prévenus ou ne prononcer que des peines atténuées. Autre exemple, la Cour de cassation a jugé que les contrôles d'identité au faciès étaient formellement interdits, lourdement fautifs. Mais les avocats qui ont mené cette bataille judiciaire sont bien placés pour savoir que dans les banlieues, les pratiques de contrôle discriminatoire perdurent. Je pourrais prolonger des exemples sur les questions de durée de la détention provisoire, de la surpopulation carcérale que notre système judiciaire n'est pas en mesure de réguler. Je voudrais conclure en vous disant que partant de crise, les libertés publiques s'effritent soudainement. J'en parlais en début de propos. L'état de droit cède alors la place à des états d'urgence, censés n'être que temporaires, mais qui n'en sont pas moins dommageables. Lors du mouvement des Gilets jaunes, les pratiques de maintien de l'ordre se sont durcies en marge du droit commun. Violence excessive, nassage, arrestation et garde à vue de manifestants en grand nombre, relâchés en fin de week-end et sans poursuite judiciaire, c'est-à-dire sans jugement. Durant la pandémie du coronavirus, le gouvernement avait décrété que les mesures de détention provisoire seraient automatiquement prolongées, sans jugement non plus. Et la contrôleure générale des lieux de détention a comptabilisé que 22 000 personnes étaient restées détenues sans avoir été présentées à un juge des libertés et de la détention. Et cela jusqu'à ce que les avocats qui ont rempli leur rôle obtiennent gain de cause, d'abord devant les tribunaux de Caen, d'Épinal, en province, puis enfin devant la Cour de cassation qui a rendu le 26 mai 2020 un très bel arrêt, rappelant que, je cite, « l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire ». Je voudrais en quelques mots vous dire que les règles d'un état de droit sont fragiles et leur transgression est aisée si l'on n'y prend pas garde, chacun dans ses fonctions respectives. Moi, je fais toujours un pari pascalien lorsque je plaide une cause, que le juge soit juge, impartial et indépendant, minutieux et bienveillant, bon juriste, connaisseur de la jurisprudence, curieux des questions de droit. Et je suis parfois déçu, lorsque je perds mon procès, mais lorsque je devine sa méconnaissance de la jurisprudence, son hostilité envers ses théories juridiques, ou lorsqu'il se montre partial ou partisan et qu'il trahit alors ses devoirs, et c'est inacceptable. Mais symétriquement, je me demande souvent ce que les juges attendent des avocats, et je me désole lorsque je les déçois. J'invoquais Tacite en ouverture de mon propos, et je pense que 2000 ans plus tard, je ne définirais pas mieux la mission d'un avocat, défendre les droits et les libertés de la personne qui lui en a confié le soin. Et après, à chaque avocat l'art et la manière, selon sa personnalité, sa culture, mais aussi son époque, le contexte politique et social, le système judiciaire dans lequel il exerce son métier. En France, longtemps, le modèle de la défense de rupture que Jacques Vergès avait idéalisé a influencé les avocats pénalistes. Mais aujourd'hui, c'est un autre modèle qui les inspire, celui du procès équitable dont j'ai dressé le portrait, auquel ils participent activement. Voilà. Alors, comme le disait Victor Hugo à ses juges lorsqu'il lui arrivait de plaider, je vous remercie de m'avoir écouté avec patience.
Bien. C'est nous qui vous remercions, François Saint-Pierre. Nous souhaitions qu'un avocat, vous en l'occurrence, puisse parler du regard qu'un avocat, peut-être d'autres avocats pénalistes, portent sur la justice en 2024. Nous ne sommes pas déçus, car vous nous avez donné beaucoup de grains à moudre. On peut être d'accord sur certains points, pas d'accord avec d'autres, mais votre précaution oratoire de départ, disant que vous ne vouliez pas être lacrymal, mais constructif, montre que vous avez tenu à saluer d'incontestables progrès depuis finalement très peu d'années, mais des progrès qui sont consistants, tout en mettant en garde sur ce que pourrait donner l'éventualité d'un régime autoritaire lorsque sont en cause les droits de la défense et les libertés publiques.